bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, Sony, bienvenue avec Lina Gadeau-Moutelli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Léna.
Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau sera avec nous et nos invités, Dora Tillier, William Lekin.
Bonsoir.
Bonjour, merci bonjour. D'être là et d'être souriant et en forme. Vous avez l'air de très bonne humeur, juste de vous voir vos visages, ça fait du bien déjà.
Bah oui,
bah ça change de Daniel. Hein,
c'est ouais,
ça va Doria?
Bah oui, William vient de me faire une imitation du mec arrogant, il m'a beaucoup fait rire, donc voilà.
C'est pas du tout votre genre en plus, William.
Non, absolument pas.
Vous êtes d'une modestie incarnée. L'arrogance, on peut l'avoir un tout petit peu dans votre personnage. Le film s'appelle Yves et on en a un tout petit peu parlé hier parce que vous étiez en avant-première du Champs-Élysées Film Festival. Ouais. On l'a évoqué avec le président du jury, Stéphane Brisé, la présidente des courts-métrages, Valérie Donzelli. Yves, donc ce film de Benoît Forgeard qui sort ce 26 juin avec vous deux, et Philippe Catherine en plus, Alka Balbir également, Darius, Antoine Gouy qui est la voix. De ce frigo intelligent. Comment résumer ce film en disant que vous êtes un musicien, William Legill, un peu de la loose, un rappeur.
Oui. Alors, oui, tout à fait. Oui, il peut être un peu assimilé à une forme de loser en tout cas au départ. Oui, tout à fait.
Il y a plus de boîtes à pizza vides dans sa chambre que de fans en délire, quoi.
Oui, exactement. Oui, exactement. Et puis des petits mouchoirs.
Des Kinex. Oui, merci, William. Merci. Et quant à vous, Doria,
il est solitaire.
Ouais, il y a une belle solitude.
Vous êtes une commerciale ou une.
Oui, je suis représentante en électroménager intelligent. Voilà.
C'est ça. Et vous lui proposez de tester un immense frigo américain, on va appeler ça comme ça, mais qui parle aussi bien que les boîtes connectées, les Google, les Amazon et autres. Ouais, un frigo connecté, oui, mais qui parle, il y a une différence entre être
connecté. Je te présenterai le mien, tu verras.
Il parle.
Il parle. Connais mes habitudes.
Non,
il parle de toi aussi.
Non, mais tu dis n'importe quoi. Okay, donc là, c'est vraiment connecté au sens où il répond et il interagit sur l'avis du personnage. Et d'ailleurs, il y a un petit doute au tout début du film sur les informations qui seront récoltées de votre vie et transmises, entre guillemets, à la boîte. Vous voulez un peu d'intimité quand même, vous.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'un coup, il arrive et puis il se mêle de ce qui le regarde pas en fait. Donc ça peut être quand même assez violent, hein. Surtout, c'est un frigo.
Ouais. mais c'est pour votre bien, c'est-à-dire qu'il veille à votre alimentation, il essaye de faire en sorte que ce que vous allez ingurgiter aille dans le sens de la productivité ou de l'efficacité de votre création artistique. Donc il est là un peu pour s'occuper de vous, pour prendre soin de vous.
Oui, il est là pour prendre soin de moi, pour m'aider à être plus performant dans mon art, pour faire en sorte que je m'améliore, quoi.
Et ça va réussir puisque il va, alors que vous ne voulez absolument pas auto-tuner, modifier, mettre des filtres sur votre voix, sur votre manière de mixer, lui il va trafiquer dans votre dos, puisqu'il est connecté entre tous les ordinateurs sont connectés, il va trafiquer le disque et ça va devenir un tube.
Clic-clac, frites froides, pizza. On va faire la mienne sur Ripa. Carrément un abranlé. Je suis fier de suce comme Lisa. C'est bizarre, j'ai vendu 3 CD en à peine 6 mois. Carrément un abranlé. Je rêve de pouf en barésie. Rien à foutre de voir des filles. Je m'a des pornos avec script. Carrément un abranlé. Je passe mon temps à parler de beats. Ah, écoute, ma résine. C'est pas vegan, paraît-il. Carrément un abranlé. Yeah, depuis que mamie est décédée, je dois payer mes PV. Carrément un abranlé. Je suis le roi des branleurs. J'ai marqué sur mon CV. D'ailleurs, mon CV est sur une feuille en CB.
Et c'est vraiment vous qui chantez?
Ouais, tout à fait, ouais.
Vous avez le grand sourire, quoi, quand la chanson commence, comme si vous réalisiez pas, quoi. C'est moi qui chante.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était formidable, parce que j'ai passé un mois, en fait, avec un rappeur qui s'appelle Tortoise, et un producteur de rap qui s'appelle Mime. Et
mais qui signe, d'ailleurs, ce titre. C'est eux qui signent.
Ouais, tout à fait, ouais. Et j'ai chanté ça, et moi, c'était génial, quoi. Je suis passé derrière le micro, c'était magnifique. C'était vraiment.
Alors, cette intelligence artificielle, quand on vous a raconté que vous alliez jouer avec un frigo, quelle a été votre première réaction, Doria?
Moi, j'étais...
Même plus que jouer, d'ailleurs.
Oui, enfin. Moi, j'étais très heureuse parce que moi, j'adore les histoires sur l'intelligence artificielle. J'adore.
C'est vrai.
Ouais, ouais, vraiment.
Vous en avez à la maison? Vous avez l'enceinte connectée? Vous
non, pas
vivez
du tout
avec ça.
Non, absolument pas. C'est une intelligence artificielle très poussée. C'est un frigo beaucoup plus intelligent que les enceintes connectées qu'on a aujourd'hui. Et j'adore les histoires d'amour, et j'adore les histoires d'amour qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc moi, j'étais très emballée, j'y croyais complètement. Je trouvais pas ça bizarre, en fait.
De tomber amoureuse de William Lebgill.
Voilà. ça, c'est pas bizarre, ça, tout le monde le fait.
Arrête.
Je laisse ce petit moment de gêne. On va en parler dans quelques instants à nouveau de ce film, mais d'abord... Des questions concernant par exemple Doria, qui a joué dans une série policière de France 2. Quel était le métier à l'honneur dans cette série?
Les avocats?
Les légistes?
Non.
Les douaniers?
Joli. Un jour ça marcherait. Un jour ça marcherait. Un jour. Mais oui!
C'est bon, je peux m'en aller.
Même moi je savais pas.
Faut préciser une chose, c'est que depuis 5 ans, chaque fois que je pose une question sur quel métier tel acteur ou telle actrice aurait aimé faire, chaque fois la réponse de Daniel Morin, c'est douanier. Et j'avais dit, mais arrête avec ça. Arrête avec ça. Donc là, c'est au pif que tu dis
c'est
ça.
Pas du tout, je le savais.
Tu parles. Action spéciale douane, Doria.
Oui, maintenant, je...
Pourquoi vous dites que vous aviez oublié?
Parce que c'est dans le titre, mais j'avais joué dans un épisode.
Ouais.
Donc, je fais ce qu'on appelle un guest. Donc, je jouais une nageuse, voilà, mais c'est tout. Ce dont je me souviens.
Ça dure. Il y a eu 6 épisodes, mais vous dites que dans un seul
moi,
épisode.
Moi, oui, j'étais. Oui, voilà, un petit rôle dans un épisode.
Très bien. Quel métier, justement, aurait aimé faire William
Douanier
Lebgill? Ne m'attends pas deux fois.
Tu ne prends pas mes réponses, s'il te plaît.
Médecin.
Vétérinaire. Attends, dans la vraie vie, hein. Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire
dans la vraie vie? Mais...
Je peux jouer, moi?
Non.
Prof de hand.
C'est non, niche,
mais... footballeur ça, professionnel.
C'est sa tenue vestimentaire.
Vendeur de survêtement de pêche. Non.
Sportif de haut niveau.
Non. Ceci dit, pour faire ce métier-là, il faut physiquement.
Rock.
Déménageur.
Être au top. Non.
C'est un truc de sportif.
Circassien.
C'est pas un truc de sportif, danseur, mais physiquement, il faut être super bon.
Rockstar.
Non.
Pilote de Formule 1.
Non. Alors ça commence bien, mais ça finit mal.
Pilote d'avion.
Oui.
De chasse.
Ouais, exactement. Ouais, Marina Rollman, pilote de chasse, c'était votre rêve.
Ouais, moi-même, je l'ignorais.
Merci Vilma et ses interviews cachées.
Vous avez bien fait de
venir. Non, mais c'est vrai, c'était une blague que j'aimais beaucoup faire. À un moment donné, je disais que c'était mon rêve de. Enfin, non, je disais que j'avais été pilote de chasse.
Non.
J'avais fait des études de pilote de chasse.
Faux. Non, vous avez dit il y a 2 ans dans une interview.
Dans quoi,
que vous vouliez être pilote de chasse pour être plus près des nuages.
Ah, c'est faux.
C'est hyper romantique.
Ok, revenons à quelqu'un de normal. Doria Tillier, pourquoi à 13 ans s'est-elle coupée les cheveux façon garçon manqué?
Pour jouer au foot dans la cour, pour pas être discriminée, pour.
Quoi?
Pour ressembler à Nagui?
Non.
Pour draguer les meufs?
Non plus.
Pourquoi on se coupe
les
cheveux?
Parce qu'elle avait chaud?
Non.
Parce qu'elle jouait dans un groupe de punk.
Parce que c'était. On pouvait pas faire les mêmes choses quand on était une fille ou un garçon, non?
Pas du tout.
Pour faire chier ses parents?
Non plus.
Ses grands-parents?
Pour offrir ses cheveux, la natte à quelqu'un?
Pour les vendre?
Non plus.
Parce qu'elle avait fait des dreads? Le regret post-dread?
Pour une couleur?
Ah oui, ça cause une.
Non, il y a eu un moteur. Quelque
elle
chose.
Elle a vu une icône, quelqu'un qui avait les cheveux courts, et elle s'est dit, je vais être aussi comme ça?
Ouais.
Exactement. Cinquième élément.
Ah ouais.
Mais non, mais c'est même pas le Lilou, c'est ça, dans le cinquième élément. Non, c'est juste une fille qu'on voit, je pense, dans un plan qui dure 2 secondes, qui répond au téléphone, une assistante, qui était super belle et qui avait les cheveux courts. Et j'ai cru que.
Bleu, les cheveux bleus et les cheveux courts.
Ouais. C'était raté sur moi. Hein. On en croyait que j'étais un petit garçon. Voilà.
Vous avez fait ça à 13 ans, mais vous l'avez fait vous-même en plus avec
Non, je l'ai pas fait moi-même. Ah, je suis allée chez un coiffeur qui m'a pas averti. Il m'a dit, pas de problème.
Ah ouais, d'accord.
Et sans que maman le sache.
Ah si, mes parents savaient. Mon père, il trouvait ça cool. Il me dit, t'auras l'expérience, tu vas voir, tu vas sentir le vent dans tes cheveux, tu vas te sentir libre.
Je suis assez d'accord.
Ouais.
On a attendu que ça repousse après.
Libre de me faire charrier, quoi.
Ouais. Pourquoi William? Alors là, on s'attend à tout, évidemment, maintenant, parce que sa vie, son œuvre. Pourquoi William Lebgill est-il resté un mois dans un hôpital psychiatrique à Charenton?
Pour simuler, pour pas faire le... Non,
pour préparer la première année?
Non,
pour être le service militaire, non, ça.
Attends,
non.
Excuse-moi. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Ouais, c'est vrai.
Ah, ça, c'est vrai.
Ouais.
Bah, ça allait vraiment pas bien et on en rigole ou c'est quoi l'histoire?
C'est pas loin.
Ok.
Une déception amoureuse?
Non.
Un pari?
Non.
Accompagner quelqu'un qui y était? entretenir compagnie. Non, on peut pas.
Bah, un mois, accompagner quelqu'un.
Ouais,
un
ça
mois,
fait longtemps. Ouais, pour des vacances, ce qui pouvait pas se payer. Non. C'était ça ou
l'agence. Pour échapper à la police.
Il y a une question d'argent.
Il était payé en contrepartie pour tester des médocs.
Non.
Ah, une étude sur le sommeil. Il devait de l'argent à quelqu'un, du coup, il s'est fait interner. Je suis désolée, je peux pas.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour du pognon, là?
Oh, beaucoup de
il est resté un mois à l'hôpital.
Ah, mais il était aide-soignant, il était pas patient, il était aide-soignant, il
alors,
était.
C'est stagiaire, c'est une première
il faisait de l'animation.
Exactement.
Ah, ouais.
Exactement.
Ah, ouais.
À la compta.
Ouais, tout à fait, à la trésorerie.
Ah,
ouais,
ah, bien joué. Bien joué, la fausse piste.
Et alors, ça rapporte?
Ah, non.
Pourquoi Doria Tillier a-t-elle lu le livre de Michel Simès sur le cerveau?
Parce qu'elle a été contrainte.
Parce qu'elle est passionnée par ça?
Non.
Parce qu'elle a fait un projet autour de quelque chose de cet ordre-là, un film, un...
Parce que quelqu'un dans sa famille travaille, il y a des neurochirurgiens dans la famille.
Parce qu'il y avait que ça qu'à la gare, avant de prendre le train et elle l'a pris.
Non.
Parce qu'on lui a donné de l'argent.
Non.
On l'a obligée.
Non.
Parce qu'elle a une passion pour Michel Simès.
Alors c'est...
Pour la médecine,
indirectement,
c'est entre autres pour ça, hein. Mais c'est pas la réponse, je pense qu'elle...
Pour les blagues grivoises, alors?
Non. Non, non, c'est le livre sur la santé.
Parce qu'elle s'inquiète, elle est hypochondriaque, elle veut pas perdre la boule et...
C'est un livre sur le cerveau.
Ouais. Bah
donc
voilà. Parce qu'elle souffre de migraines.
Mais je me sens conne. Voilà.
Pour Yves, est-ce que c'est un rapport
non,
avec...
Non, non, c'est un rapport avec son métier d'actrice, en tout cas.
Parce qu'elle devait...
Ah, pour la mémoire, pour apprendre les textes.
Exactement.
Ah,
exactement. Parce que vous avez des trous de mémoire, ça vous fait peur.
Oui, enfin, j'ai pas des trous de mémoire dans les textes, hein, c'est pas pour les textes.
Pardon.
Mais
dans la vie,
c'est oui, dans la vie, j'oublie les noms des gens, enfin, j'oublie des trucs que je trouve.
C'est et vous croyez que Simès peut apporter une solution?
Non,
écoute, c'est vraiment lui donner 15 balles gratos.
T'inquiète pas, il y a des millions de gens qui sont tombés dans le piège.
Ouais, ouais.
Mais si que vous oubliez les noms de personnes que vous avez croisées qu'une seule fois il y a longtemps, ça, c'est pas grave. Ça serait plus grave si c'était des personnes que vous fréquentez au quotidien.
Ouais, voilà, ça peut m'arriver, ouais.
Ah, des gens que vous fréquentez au quotidien.
Mais c'est-à-dire qu'il va me falloir quelques secondes, tu vois, je vais croiser deux personnes que je connais dans la rue et puis vouloir les présenter et ne pas savoir alors que j'ai passé des vacances avec eux, quoi.
Ah ouais, là c'est chaud. Est-ce que le livre a apporté ou changé quelque chose?
Non.
Bah écoute, non Michel, voilà. Pas du tout.
Voilà. À quel genre de tournoi William Lebguil a-t-il participé?
Ping-pong.
Air guitar.
Handball.
Alors, on n'est pas loin.
Lipsic.
Air guitar.
Les fringues doivent... Non, c'est pas air guitar. Les fringues peuvent vous aider aussi.
Air bowling.
Non.
J'ai dit ping-pong.
Tu vois pas un peu...
Non.
De Big Lebowski. Non.
Déguisé des trucs...
C'est génial, Big Lebowski.
C'était pas mal, ouais. Les frères Cohen, ils font des trucs sympas.
ouais.
Un tournoi, ça ressemble à du air guitar. Enfin, c'est un peu le même...
C'est
l'air
guitar. Non,
la Zumba. Des faux sports.
C'est pas un faux, non, c'est pas faux, non, c'est un
vrai concours. Des trucs de cosplay, de
vrai concours.
Ressembler à un truc d'animation.
Ah, de sosie.
C'est un concours.
De danse.
Il ressemblerait
à Yvette Homme. De
Mia.
Concours de danse. Concours de danse.
Breakdance.
Tout à fait, oui.
Tectonique.
C'est exact.
Tectonique.
Oui, j'ai pratiqué la tectonique de manière très intensive.
Mais le ton de la voix, William, t'es tellement pas crédible quand tu le dis. C'est pas possible. Et t'as pas la voix du mec qui danse à la techno, quoi. C'est pas possible.
En démo à Châtelet, ce genre de truc et tout.
Non, c'était dans des boîtes de nuit au bord de National, dans 77.
Métropolis.
Ouais, genre.
Genre Métropolis.
À Orly, ouais, c'est ça. La référence. Bon, alors parlons de Yves, de ce film où il y a quand même aussi la version de ce même rap chanté par le frigo.
Tu sens le danseur qui revient quand même, hein, c'est fou. Ouais, c'est...
On se dit, il y a des clashs de rap aussi, il y a des... Il y a des sets, genre, je sais pas si tout était improvisé. Non, il y avait des textes durs à apprendre parce que ça va vite, le flow, en plus.
Ouais, c'était, oui, c'est carrément préparé, hein. Mais d'ailleurs, je crois que même dans les Clash Contenders, c'est préparé quand même, hein. Ça a l'air d'être improvisé,
ouais,
mais quand même, ils préparent leur truc, hein.
D'accord.
Ouais, okay. Ouais.
Le clash se passant entre le frigo et vous, puisque il y a tout un débat pour savoir lequel des deux rappe mieux que l'autre. Humaniser, jouer avec un frigo. Est-ce que la voix que nous on entend dans le film, jouée par Antoine Gouy, vous l'aviez sur le tournage? Comment ça se passait pour jouer avec un frigo, Doria Tillier?
Bah oui, on avait la chance d'avoir Antoine Gouy sur le tournage, qui était complètement mis à part comme un lépreux, hein, dans une non mais c'est-à-dire qu'il était il était toujours isolé du reste du groupe.
D'accord.
Dans une petite pièce, on le voyait pas, il était soit à l'étage
dans
ou à la
cave, dans une cabine son, en fait.
Voilà. Exact. Non, c'était pas une cabine. Oui, on peut dire que c'est une cabine son, oui, c'est vrai. Et donc lui, il nous voyait à travers un retour caméra. Il voyait ce qui se passait, mais nous, on le voyait pas et on l'entendait parce qu'il avait un micro et il y avait des sortes de haut-parleurs intégrés au frigo. Donc on l'entendait.
Avec cette voix un tout petit peu trafiquée d'ordinateur, un peu auto-tune, quoi.
Ouais, voilà. ouais. Mais, enfin, elle a été trafiquée, je crois, en post-production.
En post, d'accord.
Et donc sur le moment, c'était d'ailleurs un des seuls acteurs qui improvisait.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, on avait oublié qu'il existait, lui. Et d'ailleurs, à la cantine, on le mettait toujours à part, on voulait pas déjeuner avec lui.
C'est le principe du frigo.
Et voilà. Mais on aimait beaucoup ce frigo qui nous parlait.
Ouais, c'est ça le rendait très vraisemblable, très crédible, du coup, Yves.
Alors, il faut dire que le réalisateur vient des Beaux-Arts. Donc, lui, il était il a une espèce de d'esthétisme dans sa manière de réaliser. Parce que filmer un frigo aussi, on peut se poser la question de... C'est un sacré défi et c'est réussi, ça fonctionne, totalement crédible qu'il y ait un jour une machine qui s'immisce autant dans nos vies, surtout quand la vie est si peu remplie. William, pour votre personnage, je parle.
Ah bah oui, non,
il a rien dans sa vie.
Ça va. Si, non, mais faut quand même savoir que le personnage de GRM, c'est quand même un personnage c'est un passionné, quoi. C'est quelqu'un qui vit pour le rap, qui est dans le creux de la vague.
Il vit vraiment pour le rap, non, sincèrement. Il vit pour le rap ou il est dans la loose et il sait pas quoi faire.
Ah non, vraiment, c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est comme...
Il y a Philippe Catherine qui est son espèce d'agent, mentor, je sais pas, ou...
Non, mais il y a une référence dans le film à David Bowie pendant sa période Berlin, c'est comme une retraite, vous voyez, c'est...
si, c'est vrai. Tu peux pas insulter la mémoire de David Bowie comme ça, je peux pas tolérer
mais
ça.
On peut dire que oui, effectivement, il est un peu dans le creux de la vague au début du film.
Et il y a une erreur d'adresse pratiquement et une erreur de client quand vous venez lui livrer le frigo. Vous pensez arriver chez un policier.
Oui, parce que moi, donc je représente cette société d'électroménager intelligent et je fais des tests auprès de différents profils et je l'appelle les gens au téléphone et lui il m'a dit qu'il était policier, donc j'arrive et puis je constate. Face à ces boîtes de pizza et à ces Kleenex chiffonnés au pied du lit, que c'est pas vraiment un policier. Et
le policier peut faire ça aussi.
Oui, c'est... non, tout à fait. Mais disons que j'ai plusieurs indices qui me laissent supposer que c'est pas ça. Après, j'aurais pu me tromper, mais et puis en fait, je trouve ça assez cool comme test. Je me
parce
dis
qu'il est drôle.
J'avais pas de parce que je le trouve drôle et je le trouve. Je dis quoi, un truc échec professionnel. Je crois que c'est ça mon
ouais,
texte.
C'est vrai.
Je dis j'avais pas encore ça dans mes profils. C'est très intéressant.
Non, et l'humour compte aussi. Vous cochez des cases comme ça sur votre formulaire pour justement suivre le test et voir jusqu'où il ira. Il faut quand même préciser que l'idée de votre réalisateur,
Benoît Forgeard,
vient d'une réelle conférence sur l'intelligence artificielle.
Ouais, une conférence sur les robots. Ouais.
Oui, c'était une conférence où en fait ils imaginaient des voitures futuristes
qui existent déjà. En tout cas, les voitures qui conduisent seules, ouais. Ça existe. Ouais.
Oui, ça existe déjà. Mmh. Et en fait, la voiture pouvait capter en fait si le conducteur était dans un bon état pour conduire.
Ça existe aussi.
Et puis si ça n'était pas le cas, il appelle un proche.
C'est ça.
Ça existe aussi.
Non, la voiture ne démarre pas. C'est-à-dire si vous avez les yeux qui picotent ou qui se ferment trop longtemps, la voiture lance une espèce d'alarme et sur le tableau de bord vous intime l'ordre de vous arrêter parce que vous êtes endormi.
C'est ça sur ta voiture?
Pas du tout.
Non.
Non, pas du tout.
D'accord.
Mais il y a des voitures qui font ça et non, moi j'ai désactivé le.
C'est ta femme,
On parle d'une voiture électrique. En l'occurrence, la Tesla, qui fait partie de ces voitures comme Google et autres, où tu pourrais dire, tu rentres l'adresse et tu ne conduis pas. Mais j'avoue ne pas
être totalement serein.
Accepter, voilà, pas accepter.
Il préfère donner l'adresse au chauffeur.
Pas accepter l'idée.
C'est plus sûr.
Je me dis quand même conduire soi-même. Il y a toujours le coup de volant où on peut éviter quelqu'un qui traverse.
Ouais.
Et puis il y a déjà eu malheureusement des voitures comme ça qui ne se sont pas arrêtées alors qu'un
piéton traversait. Alors que les humains jamais.
Non, si ça peut arriver, mais au moins tu te sens responsable. Ouais. C'est toi quoi qui est responsable. C'est pas c'est la machine, elle s'est pas arrêtée, monsieur. Non, mon compte est au volant, tu conduis. Mais ça arrivera sûrement un jour et peut-être qu'il y aura moins d'accidents après quand tous les ordinateurs géreront ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous y croyez à cette progression? Parce que de la manière dont il vous l'a raconté, Benoît Forgeard, forcément il vous a dit que lui ça l'amusait ou ça l'inquiétait, je sais pas. Mais enfin, il a voulu en jouer de ça. Mais est-ce qu'au fond de vous y croyez? à cette progression technologique et technique.
Si on y croit dans le sens où ça va arriver, moi je crois que ça va arriver. Pas forcément, je pense pas que ça arrivera dans la mesure dans laquelle ça arrive dans le film, quand même pas. Enfin, mais en revanche, oui, bien sûr, ça va arriver. Après, est-ce que j'y crois dans le sens où je crois que c'est une bonne chose?
Ça, c'est plus, ouais. On va plus loin.
Vaste débat, mais moi, ça m'effraie un peu.
En tout cas, cette machine, cet ordinateur devient l'ami, le conseiller.
D'un homme complètement abandonné, donc votre personnage, ou Lebgill, qui est vraiment, c'est aussi joli dans le film, c'est raconter comment les technologies qui sont censées nous connecter nous laissent quand même plutôt seuls, et il va trouver en lui un ami, et à long terme, une sorte de bienfaiteur extraordinaire qui va faire de vous celui que vous rêvez d'être, en fait. Sauf que...
Optimiser, c'est le mot d'ordre, hein, c'est optimiser.
Oui, parce que quand on voit la scène d'ouverture du film, en vrai, la préparation du petit déjeuner, on se dit que ce garçon, je sais pas s'il a besoin d'un ordinateur, mais il a besoin de compagnie. Quoi, parce que,
c'est surtout son chien qui a besoin d'un autre maître. Voilà. Parce que ce que vous donnez à manger à votre chien, c'est honteux. C'est honteux, mec.
Et ça rejoint vraiment un truc plus crédible de la technologie, c'est-à-dire comment, en mettant des aliments dans notre frigo, on peut nous dire que le bilan énergétique il est catastrophique. Vous, c'est le cas. C'est une catastrophe, voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment cet ordinateur-là va vous conduire à vraiment réaliser votre rêve et comment vous allez faire pacte commun avec cette Yves qui est mue par des sentiments. Et ça, c'est le truc qu'on soupçonne pas au départ. On croit qu'il est simplement là, docile, pour vous obéir.
Oui, tout à fait. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans le film, c'est la notion d'intelligence. Être intelligent, est-ce que c'est aussi finalement avoir des sentiments? Est-ce que c'est simplement vouloir prendre le pouvoir ou être efficace, ou c'est aussi... douter, hein, finalement.
Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la connerie naturelle?
Peut-être.
On le prouve tous les jours. Hein.
Et la connerie, c'est une forme d'intelligence.
Quand on sait.
Ouais.
Quand on sait que...
Bon alibi. Hein.
Mais Doria, justement, vous tombez amoureuse de l'intelligence, ce qui est aussi un message et une valeur. Ce n'est pas la beauté extérieure, ce n'est pas l'enveloppe qui peut vous attirer, c'est l'intelligence.
Ouais, après peut-être que si le frigo avait eu un aspect absolument repoussant, j'aurais pas pu en tomber amoureuse. Mais en tout cas, moi, c'est des questions qui m'interrogent vachement. Est-ce qu'on peut... Il y a des gens qui tombent amoureux par chat ou au téléphone, ils n'ont jamais vu la personne.
Il y a des très belles femmes qui tombent amoureuses de mecs extrêmement moches, mais très brillants, très intelligents. Moches, drôle. Par rapport au code de la beauté. Ouais, mais... quand on voit toutes les beautés que Serge Gainsbourg a eues dans sa vie, il s'appelait lui-même l'homme à la tête de chou. Il se qualifiait.
Il correspondait
pas au canon de beauté. Mmh. Ouais, il faisait rien pour d'ailleurs, mais il avait une sensibilité. Ouais. Une intelligence qui attirait.
L'inverse est un peu plus rare.
C'est-à-dire
on voit moins souvent des hommes sublimes avec des femmes... l'équivalent de Jane Birkin en mec avec l'équivalent de Serge Gainsbourg en femme,
chance à beaucoup, moi. J'ai donné leur chance
mais
à
elle aussi. Ouais.
En tout cas, c'est un film drôle. Surprenant, parce que on va pas tout révéler, mais enfin il se passe beaucoup de choses au fur et à mesure que le film avance, même si on se dit au début on va vite faire le tour, bon ça va, on a compris, ça va tenir un quart d'heure, 20 minutes, pas du tout,
une bonne demi-heure,
il y a des rebondissements jusqu'à la scène finale qui peut devenir une espèce de scène culte, ouais. À la Basic Instinct, mais dans une autre version plus moderne et plus intelligente.
On a beaucoup aimé la tournée, en tout cas
plus fraîche, oui,
voilà, plus fraîche, rafraîchissante. exactement. Tom Villa, c'est un succès annoncé, ce film.
Oui, alors je refais juste le pitch là pour les gens qui arrivent à 11h28, et d'ailleurs je préfère prévenir, on est en 2019, si vous sortez d'un coma de 20 ans, vous allez vous dire putain, dans le cinéma ils ont fumé très très fort. Mais bon, Jerem s'installe chez sa grand-mère pour composer son premier album de rap. Une mystérieuse start-up lui propose Yves, un frigo intelligent, et le frigo est tellement intelligent qu'il va l'aider à composer de la musique. Et le pire, c'est que seul le frigo est capable de faire des succès. Je révèle rien, c'est dans la bande-annonce. Donc là, s'il y a des papis, des mamies qui nous écoutent, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, prenez un Xanax parce que vous n'êtes pas prêts. Non mais c'est vrai, il y a 20 ans, un frigo, c'est un frigo. Alors qu'aujourd'hui, il peut dire... ce qu'il contient. Il peut te proposer des recettes avec ce qu'il contient. Oui. Tu peux regarder la télé sur l'écran de ton frigo. Tu peux aller sur Internet avec ton frigo. Donc oui, un frigo intelligent qui fait de la musique, ça paraît pas si con dans un futur proche. Surtout pour ceux qui ont déjà écouté un album de Jul, tu dis, bah au pire, ça peut pas être pire. Non mais c'est vrai, par contre, le frigo il s'appelle Yves. Est-ce qu'on pourrait arrêter de donner des prénoms humains à des objets ? La bagnole, elle s'appelle Zoé, Mégane, le frigo, il s'appelle Yves, l'armoire, elle s'appelle Billy, le taxi, il s'appelle Hubert. Ce rythme-là, dans 20 ans, je suis en couple avec table basse et la nuit, on dormira dans Jean-Pierre, ça va être très désagréable. Parce que je te jure que tu dis Yves, il fait 150 kilos, il est composé à 90% de bière, il est souvent très sale, on sait pas si tu parles d'un frigo ou de mon oncle. Donc voilà, il y a un moment. Donc là, le drame du film, c'est de voir que le frigo est extrêmement intelligent. Juste, en général, je dis ça, faut arrêter de croire que la technologie et les objets connectés vont nous détrôner. Parce que demain, il y a une coupure de courant. Il n'y a plus personne. Sans batterie, ton iPad, c'est un dessous de plat. Très cher, mais c'est un dessous de plat. Autant, il y a des trucs, c'est super. La caméra connectée, c'est vachement bien. Moi, j'en ai mis 3-4 chez moi. Mon appart, c'est Love Story. Quand je suis pas là, je peux voir mon chat dormir, voir à quelle heure ma mère est venue pour nourrir mon chat, me rendre compte que c'est pas mon chat qui a pissé dans l'entrée. Bref, c'est vachement bien. Tu vois, en revanche, les mondes connectés, faut reconnaître que bon, bah, c'est pratique pour voir ses mails, ses SMS, sans sortir le portable de sa poche, mais c'est quand même très désagréable de se faire engueuler quand tu marches pas assez. Comment t'es vive quand t'as pas fait ton nombre de pas par jour, mais t'es qui pour me juger? Je veux dire, quand t'as monté, t'as plus de batterie, t'as beau l'engueuler. Alors, feignasse, on fait la sieste? Bah, elle s'en fout. Et la balance connectée, c'est pas un truc de débile. Faut vraiment être très con pour pas se rappeler de ton poids d'il y a 15 jours. Et savoir quand t'es en surpoids. Alors, je vous donne un indice. Quand t'es en surpoids, service public oblige, hein. Quand tu mesures moins d'un mètre 90 et que tu montes sur la balance et qu'il y a 3 chiffres qui s'affichent, c'est que t'es gros. Allez, bonne émission.
Merci, la bulle originale. Midi sur France Inter.
Avec ce film et puis la bande originale de ce film, parce qu'il y a beaucoup de musique, ça va donc de...
Carrément un abranlé. Ma vie c'est clic-clac, frites froides, pizza. On va faire la mienne sur Ripa. Carrément un abranlé.
Jusqu'à...
Ah, Myriam.
Évidemment. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce du film. D'ailleurs, si je peux me permettre... d'être extrêmement désagréable.
Ça change quoi au pire?
Parce que je ne le fais pas souvent.
Ah pardon.
Monsieur. Pas avec les invités. Avec vous, je suis désagréable, mais jamais avec les invités. Je trouve le film, mais mille fois meilleur que la bande-annonce. La bande-annonce, pour moi, c'est, je sais pas qui l'a faite, mais il faut qu'il change de métier, le mec qui a fait ça.
Non, c'est pas définitif. Il peut s'être loupé sur cette bande-annonce.
C'est à côté de la plaque. C'est totalement à côté de la plaque. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec la bande-annonce, mais j'ai vu la bande-annonce par souci du boulot, en me disant voilà, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire par rapport au film. Et j'ai halluciné.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Pardon pour cette petite parenthèse.
Je sais pas, peut-être qu'il voulait créer l'effet bonne surprise, tu vois, pour le spectateur.
Oui, la blague, une blague qui s'étend sur une minute.
Je vais vous soulager, je vous demande pas de la juger, vous, cette bande-annonce, c'est mon opinion, voilà. Si vous voyez la bande-annonce, vous pouvez aller voir le film, non pas parce que vous avez vu la bande-annonce, mais parce que le film est un milliard de fois meilleur que la bande-annonce. Généralement, il y a d'autres bandes-annonces où on a tout vu. Ouais. On voit la bande-annonce, on a tout vu, et puis après on a dit, OK, les meilleures vannes étaient dans la bande-annonce, et elles sont pas dans le film. Là, c'est juste l'inverse. Il y a plein de très bonnes vannes dans le film et on se dit, ok, le mec, il a pas eu le temps de voir le film pour faire la bande-annonce, il a juste pris deux, trois trucs.
Sens de la
mais
mesure.
C'est qui? C'est peut-être le réalisateur lui-même, j'en sais rien.
Quel abruti.
Ce sens de la nuance, tu sais.
Oui, toujours. Et la délicatesse. Tu veux parler de Marina Rollman?
Ah bah d'accord.
C'est qui?
Bonjour les amis. Les amis, c'est officiel. L'été, c'est demain. Et donc, avec l'été, j'espère que tout le monde prend un peu de vacances. À part évidemment Leïla, qui entame avec l'été un marathon d'événements culturels plus glamour les uns que les autres. À commencer par le Festival d'Avignon, le In, le Off, bien sûr, mais également le Middle, que très peu de gens connaissent. Puis, évidemment, la triennale de la performance liquide à Cologne, puis du Festival de films muets et sans images de Vancouver. Enfin, voilà. À part Leïla, on va tous aller faire les ploucs au soleil au moins quelques jours dans les prochains mois. Et j'ai appris récemment l'existence d'un type de voyageur que j'aurais pas osé imaginer dans mes pire cauchemar, les backpackers. Vous voyez ce que c'est? Alors, les backpackers, c'est donc littéralement les gens qui voyagent avec un sac à dos. Voilà. Ces gens qui n'ont manifestement pas eu vent de l'invention de la crème solaire. Tu sais, on dirait des raisins secs avec des dreads blondes comme ça. Ils ont toujours des noms courts, genre Vince, Craze ou Pipou. Et t'arrives pas à dire s'ils ont 22 ans, 48 ans. Ils sont perdus en Uruguay depuis des années. Bref. Généralement, ils te refusent de dire d'où ils viennent, tu sais. Très clairement, ils sont blonds, blancs, Mais quand tu demandes d'où ils viennent, je suis genre, ouais, je sais pas, ça fait 6 ans que je suis en Indonésie. Mais t'es de Bayonne, Vin, c'est pas grave, dis-le. Enfin, voilà. Et bon, ils font ce qu'ils veulent, sauf que c'est très bien. Sauf qu'il y a des backpackers qui se retrouvent à court d'argent, parfois pendant leur voyage, et qui donc, pour poursuivre l'aventure, se mettent à mendier, beg en anglais, dans les pays dans lesquels ils se trouvent pour continuer à voyager. Mm. Donc aujourd'hui, tu peux trouver un petit couple d'Allemands à Dresde en train de jouer mal de la guitare à un arrêt de bus en Inde pour qu'on leur donne des sous. C'est chaud, c'est vraiment très chaud. J'ai vu des images vraiment d'aller dans des pays, demander à des gens qui, pour des raisons économiques ou politiques, ont probablement pas fait un tiers du dixième des voyages que t'as fait toi, et leur demander de sponsoriser ta vie sabbatique, c'est quand même, ouais. C'est très très chaud. J'ai donc décidé de vous faire part de ma petite liste de choses dont on pense qu'on peut les faire parce que c'est les vacances, mais en fait, non. alors, les buffets, il faut arrêter. Quand t'es à un buffet, le masque de la civilisation tombe, tu découvres vraiment les gens que tu croyais connaître, que tu respectais, pour lesquels tu ressentais de l'amour, et là tu vois cette personne revenir à table avec une assiette genre pancakes, crevettes, burritos, vol au vent, solilès, réocap, fraisier. C'est trop les buffets pour nos petits cerveaux, parce que tout est possible, donc tu deviens fou, t'es tellement grisé par les possibilités, tu vois, tu vis toutes les vies que tu t'es interdite à la maison, c'est beau, mais c'est pas parce que c'est les vacances que ton système va supporter, tu vas regretter dans 3 heures, c'est un fait, donc les buffets, il faut arrêter. Le deuxième truc qu'il faut arrêter, le jet ski. C'est quand même un comble, toute l'année, de trimer pour essayer pendant une semaine d'échapper aux embouteillages, aux transports bondés, aux autoroutes, aux voisins qui font des travaux, pour se retrouver chevauchant un truc qui fait le bruit de 1000 tondeuses. Et tu mélanges ça aux gens qui écoutent leur musique à fond, sans écouteurs sur la plage, alors que t'as rien demandé. Et tu te dis, mais pourquoi sommes-nous partis? On essaye très clairement de recréer les conditions du RERA à l'heure de pointe. On était très bien à la maison. Enfin, je veux dire, pourquoi on va sur une plage pour faire ça? Troisième truc qui est compliqué en vacances, l'alcool. Attention, erreur classique de vacances. C'est pas parce qu'on est sur un autre fuseau horaire que c'est pas de l'alcoolisme. Les premiers jours, t'es un peu timide. Tu commences à 15h, puis 13h, puis 10h du matin. Ben ça va, il y a plus de glaçons que de rosé. Moi, je suis très pour. Après, je dis juste que ça ne facilite pas la rentrée. Déjà, tu reviens de vacances, c'est pas rigolo. En plus, t'es en sevrage de sulfite en même temps. Enfin, ça fait beaucoup. Voilà, je dis juste, calmons-nous avec l'alcool. Dernier truc, les aptitudes photographiques. Alors, a priori, je veux pas gâcher la fête. Hein. Mais a priori, il existe déjà une plus belle photo de la Sagrada Familia que celle que vous vous apprêtez à faire. Lâchez cet appareil. Kiffez, il sera toujours temps après d'aller chercher un truc chouette que quelqu'un d'autre a fait, à poster. Mais le truc flou de côté avec un pouce devant, quand on parle de monument qui attire genre 32 milliards de visiteurs par jour, c'est pas urgent que tu l'archives, disons. Je pense qu'il y a des traces ailleurs de l'existence de ce bâtiment. Et une bonne chose, je pense, c'est si ce que vous vous apprêtez à photographier, on en a déjà fait des t-shirts, a priori, c'est pas la peine de le prendre en photo. D'ailleurs, en parlant de t-shirts, dernière chose que je veux dire, il y a deux choses par rapport aux vêtements en vacances qui sont problématiques. La première, c'est qu'on ne va pas mettre la moitié de ce qu'on a pris, c'est une certitude. Et dans l'autre sens, ce que tu achètes sur place, c'est fort probable que tu ne le remettes jamais plus. Moi, des vacances, c'est un styliste fou. Il essaye de me persuader que je suis quelqu'un de fantasque. Dans la boutique, tout me va, j'y crois. Il a la main, bien sûr, ma chérie, ce casque à pointe en feuilles de bananier, c'est très toi. Avec une petite veste en jean, c'est super, tu le remettras à la maison. Ne cédez pas à votre styliste intérieur fou en vacances, vous ne les remettrez pas. Allez, bonnes vacances tout le monde et au boulot, Leïla.
Styliste fou.
Ça valait la peine que tu viennes en retard.
Je suis désolée.
Avant j'avais pas de tube. Avant j'étais sale, j'avais pas de pute, grave, pas le temps pour les factures.
Comme j'étais en train. Est-ce qu'on a soulevé le fait que William Lefguil rappe extrêmement bien? Il y a un naturel. Vraiment, j'étais impressionnée. Hein.
Ouais, on l'a soulevé. Je te remercie.
Allez, bonne soirée.
C'est chelou comme Vigro.
Non, mais il y a un gros naturel en studio et tout.
Vous saviez ça? Vous aviez déjà chanté avant ou pas, William?
Je chantais dans ma salle de bain, mais plutôt de l'opéra. Donc,
l'opéra.
Oui, j'aime bien.
Mais je vous vois tellement pas chanter de l'opéra dans une salle de bain.
C'est pendant que vous prépariez vos études de pilote de chasse.
Oui, tout à fait.
Mais vous êtes lancé des défis ou quoi?
Il y a des potes. Faire en sorte que ma vie soit marrante.
En tout cas, le film, lui, est marrant. D'ailleurs, ça se veut avant tout une comédie, même si le sujet peut faire flipper d'être entouré de robotique et de machines qui nous dictent notre comportement. Doria. C'est une comédie, avant tout.
Je suis pas la bonne personne à qui poser cette question, parce que tout le monde trouve que c'est une comédie, mais moi, le film est drôle, mais moi, il m'émeut surtout.
Donc, au contraire, vous êtes la bonne personne à qui il faut poser la question. Vas-y, pour définir le film.
Mais j'ai l'impression d'être la seule à trouver qu'il est comme ça, mais quand j'ai lu le scénario, j'étais plus émue qu'amusée, même si c'est vrai que le film est drôle, mais pour moi, c'est une comment on appelle ça, les Pretty Woman, tout ça là, Les putes, comédie romantique. Oui, une comédie romantique, voilà, oui, une comédie romantique. Les, ah oui, les putes, pardon, j'avais pas entendu.
Ah, c'est sorti tout seul. Oui, on l'a pas senti.
Mais bravo, toi.
Bravo. Alors,
ce film est une pute, voilà, c'est ça que.
Mais pas du tout. Tom, on l'a. Pas du tout. Je l'ai dit, mais on l'a dit ensemble.
Mais pas du tout, on verra la pipette.
Bravo tous les deux.
Nagui, une question, une solution.
Bien joué, Nagui. Ça vient pas atténuer ta connerie, hein. Vous soyez deux à le dire.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Moi seul dans le bateau.
Totalement d'accord avec toi.
Il planifie déjà les vacances, Nagui.
Le buffet.
Le soleil, le rosé, et puis voilà.
Non,
puis
mais c'est suite, vrai que les gens rient beaucoup. Les gens rient, pardon, rient beaucoup dans la salle. Voilà.
On a reçu dans cette émission Marc Duguin qui a fait son
transparence,
son roman sur justement les progrès des objets connectés jusqu'à nous rendre immortels, ou en tout cas toutes les données que les montres, les pèse-personnes, les appareils, les enceintes allaient récolter, finalement allaient définir, redéfinir notre personnalité, nos émotions, notre consommation,
pour nous recréer un double immortel.
Et après notre mort, bing, il y aurait une machine qui recrée la peau, et y compris notre sensibilité, notre sexualité, et on allait devenir immortel grâce à ce genre de choses. Donc c'est une espèce de roman d'anticipation. Là, on est dans un film d'anticipation, mais qui reste avec aussi des personnes paumées, chacune dans leur coin, que ce soit vous, votre personnage, Doria, William, ou Philippe Catherine aussi, tout le monde se cherche, et tout le monde est un peu dans la loose.
Mais ça, c'est la vision du monde du réalisateur, Benoît Forgeat. Mais c'est vrai que...
C'est vrai qu'il fait des projets étonnants. Il a fait un court-métrage, Coloscopia. Je sais pas si vous avez, vous l'avez vu.
Non, voilà. Mais ça m'intéresse.
Non, voilà. Je connais pas. Non, il fait des projets quand même un peu fous. Il faut brosser un peu le portrait du réalisateur. Voilà, on a parlé des beaux-arts, il est hyper créatif, il a toujours un regard un peu décalé aussi.
Et puis c'est toujours plus marrant, enfin je sais pas, moi je trouve ça toujours plus marrant de voir l'évolution de personnages qui sont effectivement un peu paumés. Pourquoi il se met la main devant la bouche, Nagui? Qu'est-ce qu'elle est morte de rire?
Non, je pense qu'il y a beaucoup de
La vitesse à laquelle vous avez dit, quand elle a dit son court-métrage s'appelle Coloscopia, et que vous avez répondu ça m'intéresse, cette vitesse-là, vous allez avoir besoin de l'analyser à un moment.
Non, parce que j'ai envie de voir tout le travail de Benoît Forgeat.
Il est question d'un anus artificiel dans Coloscopia.
Ah, c'est ça,
d'accord. Et connecté.
Bonjour.
Ok. Casse claire.
La bande originale.
Un petit coup de cymbale, s'il te plaît.
La musique, ok, ça c'est fait. La musique aimée et écoutée par Doria Tilly en 2008, c'était. These streets have too many names for me. I'm used to Glenview Road and spending my time down in Orkney. I'll get used to this eventually, I know. I know. Une voix de dingue. Une beauté de dingue en plus, un canon, Paolo Nutini, qui a totalement disparu de la circulation.
Ben oui, il faudrait que je me renseigne, je sais pas ce qui. Peut-être qu'il est dispo maintenant, du coup.
Vous non. Qu'est-ce qui se passe en 2008? Qu'est-ce que cette musique vous rappelle?
Quand je l'entends, je pense au restaurant où je travaillais, parce que je pouvais mettre la musique que je voulais, donc je mettais souvent cet album. Et puis j'écoutais beaucoup sur mon chemin pour aller au restaurant. Oui, j'avais que cette vie-là. Voilà. J'allais au restaurant travailler, je rentrais chez moi.
Last Request et autres suites.
Ouais. Mais je connaissais. En fait, j'avais découvert Paolo Nutini avec cet album et je l'écoute un peu moins. Mais j'ai recommencé à l'écouter parce que vous m'avez demandé justement ma playlist. Donc depuis deux jours, je me suis remise à beaucoup.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que là, de l'entendre, vous vous revoyez travailler dans le resto.
Ah oui, je me vois complètement. Je vois le moment où j'ai démissionné, où j'ai dit au manager, après qu'il a été très désagréable avec moi et qu'il m'ait dit, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis. J'avais dit non, et puis j'étais revenue, genre une demi-heure après, j'avais enlevé mon tablier, j'avais dit, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as dit, si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis, eh ben, j'ai dit non, mais en fait, oui, je démissionne et je pars maintenant.
Courageuse!
C'était un peu cool, tu vois.
Et à cette période-là aussi, vous êtes au laboratoire de l'acteur?
Je crois que je suis entrée un peu après, mais je sais plus, j'ai pas la mémoire des dates.
Et vous êtes sur scène, forcément, vous êtes le cerveau. Et vous commencez sur scène à imiter Monica Bellucci, faire des fausses interviews,
ouais,
je crois,
ouais,
Fanny Ardant.
Ouais, 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 ouais,
et c'est un peu
ça,
une sorte de, d'élément important, c'est-à-dire un déclic, les ouais, gens sourient, rient.
Mmh, ouais, complètement, parce que l'école où j'étais, la prof nous poussait à faire un peu des sortes de scènes ouvertes. Donc il fallait qu'on fasse, bon, il y en avait qui dansaient, qui chantaient. Et comme il manquait des, il fallait remplir le spectacle, alors il m'avait poussé à faire un truc. Et donc j'avais fait ça, des sortes, oui, des fausses interviews, quoi, d'actrices que j'imitais. Et puis c'était la première fois, du coup, que j'écrivais un texte ouais, que je jouais. Et ça
vous
faisait
rire
mes camarades.
Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est le premier moteur, c'est de faire rire.
Ouais.
Vous avez toujours
ouais,
aimé ça.
Ouais,
même
ouais,
à l'école, blaguer, bah, déconner avec les copines, enfin, c'était
oui,
votre truc.
Je sais pas si j'étais très drôle, mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Moi, les artistes qui m'ont inspiré, c'était des comiques, ouais, ouais.
Et vous croisez le chemin de Gad Elmaleh, justement, à peu près à cette période.
Ouais. Ouais. Et qui, non, ben, bah, enfin,
on voit en vous quelqu'un qui peut faire de la scène, c'est
bah
ça?
Bah oui,
aussi,
j'étais
c'est...
assez surprise, on s'était pas vu beaucoup, enfin, on avait genre une amie commune, on s'était vu deux fois et demie, comme ça. Et puis, il dit à ma copine, bon, elle m'appelle, elle me dit, bon, Gad veut te voir. Alors moi, t'imagines, Gad Elmaleh, tu me vois, j'étais là, bon. Et puis, il me dit, ouais, enfin, il m'a pas dit, j'ai eu un flash, mais c'était un peu ça, en résumé, quoi. Il faut que tu fasses de la scène, tout ça, donc, bon, bah, ça m'avait vachement flatté. Et puis un petit peu encouragé, quoi.
Oui, bah oui. Ouais.
Et alors, il l'a écrit, il vous a produit.
Non, mais il voulait m'aider. Il m'a poussé à faire un spectacle, mais j'y arrivais pas. Et puis il m'avait fait des retours sur des choses que j'avais écrites. Enfin, il a essayé de m'accompagner. Après, j'ai pas peut-être pas bien saisi la perche, mais.
Ou c'était pas la personne pour vous accompagner à ce moment-là. Ouais.
Peut-être, mais en tout cas, il a été très encourageant.
William Lebgill, en 2008, vous écoutiez. De toute façon, je crois plus rien maintenant.
Ouais.
C'est fini. Vous avez quelle image en écoutant cette musique?
J'ai l'image de. Je me vois sortir de la fac au bout d'une demi-journée de fac. Appeler ma mère et puis lui dire.
Fac
de lettres modernes. Et puis j'appelle ma mère et je lui dis je vais faire du théâtre.
Ça va bien, regarde.
Ouais. Et puis je l'adresse à ma chérie aussi, que j'aime.
Ouais, une demi-journée à la fac, quoi, c'était vraiment court.
Oui, une demi-journée.
C'est bien, Léla.
Oui, bon non, parce que. Non, mais une demi-journée. C'est-à-dire qu'une demi-journée, c'est vraiment juste. Enfin, à la limite, on tient, je sais pas, 2-3 jours. Mais une demi-journée, c'est on se dit vraiment quoi.
Mais t'as la carte du resto, déjà.
C'est
non,
pas pour
mais
moi.
Oui,
non, mais de quoi on se rend compte en une demi-journée?
Non,
parce qu'au début, on peut se dire, bon, ben, on va voir comment ça évolue. Non.
Ben non, pas du tout, en fait. Parce que c'était vraiment. Du coup, j'avais eu le temps, du coup, d'observer. Enfin, ça m'a suffi pour observer qu'il fallait vraiment travailler.
Oui.
Et que voilà, on était obligé d'être autonome, quoi. Plus comme au lycée. Donc, ouais. Je me suis dit, quitte à être autonome et à vraiment travailler, autant me lancer dans quelque chose qui me plaît vraiment. Ouais.
Qui vous a donné envie alors de jouer?
Je pense que c'est Jamel. C'est Jamel. La première fois que je suis monté sur scène à 10 ans, j'ai joué un sketch de Jamel dans ses spectacles.
Donc tous les deux, même si vous vous retrouvez là dans une comédie romantique où il y a de l'émotion, c'est quand même l'humour qui a été votre moteur, en tout cas
ah ouais,
au début.
Bien sûr. Ouais,
je
ne
savais pas ça, William.
Eh bien, voilà.
On a beaucoup de points.
C'est
communs.
Peut-être pas vrai. En 2011, Dora Tillier, vous écoutiez... Doria et Kodizia.
Ouais, en fait, c'est 2012. Hein.
Pardon.
Mais c'est pas
2012.
Grave, c'est pas grave.
Ok.
Et oui, ça signe votre arrivée au Grand
Zia.
Journal.
Ouais.
Et les années météo, enfin en tout cas l'expérience, l'exposition tout d'un coup.
Mais alors pourquoi Izia, oui
ouais.
En fait, il fallait que je choisisse une musique d'entrée. Tu sais, j'arrivais sur un ouais. petit escalier comme ça. Et,
très dangereux.
Bah écoute, je me suis jamais, planté, mais
c'était chaud.
C'était chaud. Bah c'était la partie la plus difficile de mon jardin.
Cascadeuse.
Et se souvenir du nom de l'invité.
On parle pas. Déjà c'est une amie et puis c'est une fille qui a une énergie quand tu la vois en concert et moi quand j'entends cette chanson c'est vraiment comme un cri de guerre, tu vois.
Clairement.
Et donc c'est un truc qui me boostait et je descendais avec cette musique et je me prenais un peu pour une guerrière. Enfin, il faut toujours que je m'invente des trucs, tu vois, pour me motiver. Donc voilà.
Il est évident
c'est le refrain qui vient.
Il y a le refrain.
Voilà, c'est celui-là. Voilà.
Et c'est rien là par rapport à ce que c'est sur scène.
Ben c'est ça, en
elle
fait. C'est vrai que c'est une artiste qu'il faut voir sur scène. Enfin, non pas que tu l'écoutes, c'est de la merde.
Mais n'achetez pas ses albums, c'est de la merde d'aller voir sur scène.
Mais c'est vrai que sur scène, c'est absolument génial. D'ailleurs, elle commence une tournée, je crois, cet été. En tout cas,
elle est mieux sur scène quand même. Ouais, c'est comme des films qui sont mieux en film que
qu'en bande-annonce. Ouais.
C'est ça. Et c'est la musique pour entrer dans l'arène aussi au Grand Journal. Ouais, donc, grosse exposition. Ouais. Vous arrivez après Louise Bourgoin. Et très très vite.
Ah non, il y a eu Solveig.
Il y en a eu trois entre Louise Bourgoin et moi.
C'est une sur deux.
Celles qui ont beaucoup marqué, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait quand même Louise Bourgoin qui régnait un petit peu sur la météo. Et vous, dès vos premières apparitions, tout de suite, vous marquez les esprits. Il y a une sorte de d'emballement d'Auria Tillié, vraiment. Je sais pas comment vous l'avez vécu.
J'ai beaucoup marqué.
Évidemment.
Non, mais comment vous l'avez vécu?
Je sais pas comment
vous l'avez vécu, parce que tout d'un coup, c'est fou aussi.
Bah en fait, c'est pas tant l'exposition, parce que l'exposition, on s'en rend pas compte. Enfin, on peut en avoir conscience, mais vraiment, ça n'impacte pas. Non, ça impacte pas tout de suite. En fait, moi, j'allais sincèrement travailler tous les jours, et c'était génial, très angoissant et très exaltant à la fois.
Avec le garçon de l'ombre aussi qui travaillait avec
Bertrand
Omar et Fred.
Delair, Bertrand, avec qui on écrivait tous les matins le sketch du soir.
Qui est un très bon, que nous saluons au passage.
Bisous Bertrand.
William Lebgill, vous écoutiez peut-être à l'époque.
Bonjour. Je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine.
C'est vrai que vous écoutiez ça à l'époque. Ouais, genre vous étiez fan de Philippe Catherine avant de tourner avec Philippe Catherine.
Non, mais en fait, j'avais découvert Je remets le son, un peu comme tout le monde.
Luxor.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était la costumière de Soda qui m'avait fait écouter ça. Et je trouvais ça génial. Je trouvais ça hilarant, quoi. Et hyper doux, quoi. Vraiment hyper.
Ouais, absolument.
Très musical.
À propos de ces voix, de ce côté a cappella. J'ai vu hier soir un spectacle qui s'appelle 5 de cœur au théâtre Réjeanne, salle Réjeanne au théâtre de Paris, qui est dingue, 5 voix. Ah oui, ils ne font que chanter et c'est un véritable exercice de comédien. Je vous encourage vous aussi à aller le voir, tout le monde, allez le voir, c'est drôle, c'est intelligent, c'est que musical. Et ils piochent au début, ils piochent une réplique chacun, un mot, une sorte de cadavre exquis, on peut le penser au début, et pendant tout le spectacle ils vont dire exactement chacun le même mot, mais avec différentes intonations.
Divertissant.
Non, je te jure. C'est super
par rapport à la bande-annonce de...
La bande-annonce, elle est super mauvaise, mais allez voir la pièce, elle est dingue.
Ça dure combien de temps?
Une petite heure, très bien. Ouais.
Et William, à cette époque-là, c'est Soda, justement, la série. 3 saisons.
Tout à fait.
Qui, tout d'un coup, vous fait vivre dans une sorte de colo de vacances, c'est-à-dire que vous passez la moitié de l'année avec l'équipe.
Ouais, c'est ça, je passe 6 mois de l'année, 5 jours sur 7, à tourner dans Soda, à faire Slimane.
Et finalement, c'est un peu
avec
comme...
un pote de Gad Elmaleh, justement, avec Eve.
Ouais, tout à fait.
Adams, ouais.
Et c'est un peu comme Doria, c'est-à-dire écriture, travail, vous participiez, c'était tournage de sketch, de...
Bah, c'était essentiellement des tournages de sketch, mais j'écrivais pas du tout.
Rien,
Non, j'étais vraiment pas du tout à l'origine du projet, ni à l'écriture, ni rien. C'est ça, hein, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, quoi.
Non, mais vous avez grandi
c'était formidable.
À travers cette série.
J'ai grandi
aussi.
À travers cette série.
Mais t'avais quel âge?
J'avais 20 ans. Ouais. De mes 20 à mes 24 ans.
Waouh, ouais. Un gros morceau de vie quand même.
Ouais,
c'est ce morceau où on se.
Ah bah ouais, ouais.
Et puis on réalise, on se construit. Ouais.
Puis c'était comme une école aussi. Hein. C'était hyper intéressant quand même, hein, de tourner de manière aussi intensive.
Puis,
en fait, c'est...
Au même titre que Doria, énorme succès.
Oui, c'est vrai, c'est
énorme,
très bien.
Succès, énorme succès, énorme succès. Non, mais tous les deux, vous avez vécu d'énormes succès sans que ce soit, sans que ça vous bouffe ou ça vous détruise ou ça vous mette dans des cases.
On a su garder la tête froide,
Non, vous avez suggéré. Vous avez suggéré, en tout cas. La tête froide, non, vous l'avez pas, mais vous avez suggéré.
Un énorme melon.
Jean-Claude Eudin, merci de venir à ce micro, Jean-Claude.
Merci, Jean-Claude.
Vous êtes professeur et chercheur en intelligence artificielle, l'auteur de nombreux livres sur l'intelligence artificielle, dont le dernier, L'art des Chatbot, on dit, comment on dit?
Chatbot.
Chatbot.
Ah oui.
Chatbot, oui. C'est quoi?
En gros, ce sont des assistants personnels, qui ont été popularisés récemment beaucoup par des petites enceintes connectées, ouais. Qui vous permettent de, mais qui existaient auparavant déjà sur les smartphones, hein, depuis un certain nombre d'années.
Comme Siri et tout ça, c'est
comme
ça?
Comme Siri, exactement. Alors au début.
C'est pour ça que le frigo s'appelle Bot aussi, c'est pour, dans le
Oui,
dans
complètement,
le film.
C'est
Bot, ça vient de quoi? Alors c'est quoi?
De robot, de robot.
Ah, d'accord, Bot pour robot, hein, et chat pour
une contraction de robot. Et c'est
et
vrai
le chat
que
pour comme
chat comme parler discuter
saviez-vous
discuter
que
ensemble.
Ça vient
c'est pas con ça hein, putain
ouais. ça vient du provençal
le ah chat. Non,
ça vient de la tchatch, si
ah ouais
ça vient de la tchatch du
toi
côté
on
de
dit n'importe quoi tu
je
crois
je ne sais pas j'ai fait
je te jure
non, c'est hyper plausible
je vais lancer une équipe de recherche pour investiguer ça
renseignez-vous le chat vient de la tchatch absolument est-ce que Yves et l'avenir est-ce que le frigo qui parle qui tchatte justement c'est crédible?
Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le film.
C'est pas la question qu'on vous a posée.
Ça suffit. Hein.
J'aimerais bien qu'on se concentre un peu là.
Donc,
pour une fois qu'il y a une bonne bande-annonce, laisse-le.
Et ce qui était rigolo, c'est que je travaille actuellement sur un projet d'IA avec sur la musique électronique. Donc ça, c'était intéressant. Mais en fait, ces frigos existent déjà.
Hein, pas ceux qui vous parlent en disant t'as trop mangé, tu manges
alors,
trop de bananes.
Il y a des
bon
choses qui existent déjà, en tout cas dans des machines assez haut de gamme. Hein. Mais ce qui n'existe pas, donc aujourd'hui, ce qui n'existe pas, c'est effectivement ces machines sont incapables de ressentir des émotions. Ça, typiquement.
Mais de commander à votre place lorsque vous avez fini. Bah, non, mais même, tu as l'habitude de prendre de l'eau. Commander à votre place de l'eau parce que le frigo se rend compte que dans la case eau, il n'y a plus de bouteille.
Exactement, il y a des caméras à l'intérieur
frigo. C'est pas de l'intelligence.
Et donc. Et il est capable de proposer des recettes avec ce qui reste dans le frigo, et il est capable de vérifier que votre régime alimentaire est correct, etc.
Il est capable de commander à l'avance tous les ans pour l'anniversaire
alors,
de ma mère.
Alors si on l'autorise, bien évidemment,
fleurs,
hein,
un truc comme
si
ça.
On le met. Mais effectivement,
mais regardez pas comme ça. Je ne savais pas que ça existait.
T'as pas un sou, mais nous, on va chez l'artiste, je te jure.
Alors c'est vrai que c'est encore dans des machines relativement haut de gamme, hein, mais faut s'attendre à ce que progressivement ça
donc,
vienne sur
de mettre de la bouffe dans le frigo et que le frigo vous dise avec ce qu'il y a dans le frigo vous pourriez cuisiner ça.
Oui, ça c'est
ça existe déjà.
Oui.
Très bien. Donc
on peut même repérer les goûts ou les matières que vous utilisez
un peu
le plus
mytho, hein.
Et commander un plat en fonction de ce qu'il pense.
Alors on peut faire énormément de choses.
Doria a les mêmes doutes que moi ou pas?
Ah ouais,
non mais sauf qu'il faut le rentrer manuellement actuellement.
Oui.
Faut dire là il y a du beurre, il y a des œufs.
Mais il y aurait la capacité aujourd'hui technologique de faire des propositions en push hein, c'est en proposant comme ça
et
des recettes
et de commander parce que les enceintes enfin Amazon pour pas la citer, il y a cette fameuse histoire d'un perroquet qui a commandé via l'enceinte connectée.
Mais tu crois n'importe quoi toi.
Non,
l'autre chat ça vient du provençal maintenant. Il y a les oiseaux
le
qui passent commande.
Le perroquet a répété exactement ce que ça a appris, a entendu ce que sa maîtresse commandait sur Amazon et s'est mis à commander sur avec l'enceinte connectée.
Oui, il y a plein d'histoires comme ça, comme un jeune dans la famille qui comprend finalement qu'avec l'enceinte connectée, on peut commander des trucs. Et le lendemain, les parents surpris perçoivent qu'il y a un camion de chamallows qui arrive à l'entrée pour livrer. Plusieurs dizaines de kilos.
C'est l'avenir.
En fait, ça existe déjà. Encore une fois, ça, c'est les choses qui sont en plein développement.
Mais il écrit encore des cartes postales. Excusez-le, pardon, Jean-Claude. Hein,
moi, sur mon Minitel, j'arrive pas à commander des trucs.
Non, mais pas de souci.
Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'intelligence artificielle, on lui donne. En fait, elle est beaucoup moins intelligente que ça.
Mm-hmm.
Hein, parce que nous, on est des êtres sociaux, donc on projette énormément de choses sur là-dessus. D'ailleurs, on n'a pas attendu qu'il y ait de l'intelligence artificielle pour projeter des choses dans sa voiture, faire parler son chien, enfin, lui donner un nom, etc.
Alors, comment éviter des débordements, justement, et que cette intelligence artificielle s'immisce trop dans nos vies? Est-ce qu'il faut une éthique? Est-ce qu'il y a un livre blanc pour vous, les chercheurs, en disant voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qui est permis et interdit?
Alors, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que l'éthique a fait une entrée en force depuis une petite dizaine d'années dans l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas être naïf. Hein. Il ne suffit pas de signer des chartes d'éthique pour que ça fonctionne. C'est un petit peu comme en écologie. Il ne suffit pas de signer des trucs et de faire des déclarations. Au jour le jour, il faut l'appliquer.
Il faut être un peu parano, c'est-à-dire avec une enceinte connectée à la maison. Il faut se dire qu'à terme, il faut se méfier aussi de ça.
Bah, faut pas se méfier, mais il faut être prudent. Faut vivre avec son temps, je dirais. Ça va,
prudent,
ça apporte, ça apporte également. Mais il faut être prudent.
Jean-Claude, il y a un truc dingue, parce que, évidemment, lorsque.
T'es sûr de celle-là, comme histoire?
L'année dernière, ouais. Oui, parce que je l'ai vécu. L'année dernière, c'est, je me suis intéressé à l'enceinte connectée, donc, et j'ai dit au vendeur, je dis, mais, sincèrement, j'ai pas envie d'être écouté, d'être épié en permanence, et que est-ce que c'est fake news ou faux d'être voilà d'être entendu ou d'être potentiellement espionné. Et le vendeur me dit, avez-vous un smartphone, monsieur? Je dis oui.
Mais oui.
Il m'a dit, mais donc c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, déjà même avec un ordinateur personnel.
Est-ce que vous faites de la radio? Bon, bah voilà.
Même avec un ordinateur personnel, il a une caméra. Et il a un micro, donc c'est vrai qu'avec on franchit une étape significative parce que là, avec les enceintes connectées, mais ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est le cas. C'est pour ça que je dis, il faut être prudent, il faut être faire un petit peu attention. Et
alors qui gère ça? Est-ce que c'est les grands GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, qui vont être les propriétaires finalement des données qu'ils vont récolter et ils vont les commercialiser?
Alors ça évolue. On a une législation en France en particulier qui essaye de réguler les aspects privés. Mais encore une fois, faut pas être naïf.
Donc, mais pour l'instant, ils peuvent cumuler toutes les informations.
Ouais.
Ils ont. Mais vous pouvez. Hein, vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous avez un endroit. Alors il n'est pas forcément facile à trouver. Vous pouvez essayer d'écouter et de regarder toutes les informations qui ont été collectées sur vous.
Non.
Et on s'aperçoit qu'en fait, ils ont toutes les informations.
Non, je veux pas voir
mais
ça.
Je dirais, ils ont un très grand nombre d'informations. Mais il faut pas, encore une fois, condamner ça. Il faut des données pour que l'intelligence artificielle puisse...
Vous avez encore quelques minutes devant vous, parce qu'il y a les infos qui arrivent et on voudrait vous regarder sous la main. Vous pouvez rester encore 5 minutes avec nous?
Avec plaisir.
C'est très gentil. Tanguy Pastureau, vous allez nous parler après justement des infos de midi. Bonjour.
Bonjour.
Nous allez parler de télé.
Oui, parce qu'il n'y a plus que les vieux qui la regardent. Or, je vieillis. À un vue d'œil, je me décompose. Le matin dans ma glace, j'ai l'impression de voir un épisode inédit de Walking Dead. Jeu sans frontières revient sur la 2, j'adore. Et sur la 1, il y a un truc de star en train de crever dans la jungle. Star que d'ailleurs, vous allez voir, personne ne connaît en fait.
On en parle donc après les infos de midi sur Inter. La bande originale avec les lettres de Bonjour
à tous.
Daniel Morin.
Oui, c'est ça.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Pastureau. Bonjour. Marina Rollman. Et nos invités, Doria, Thibier et William Lévy.
Bonjour.
Et Jean-Claude Audin. On vous a un peu gardé sous le coup de Jean-Claude Audin parce que comme nous parlons de ce film que vous avez vu et que vous avez comme moi aimé, comme nous, aimé.
Oui, tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui vous a plu,
en fait,
vous, dans Yves ?
C'est assez rare des films qui parlent de l'intelligence artificielle sans partir dans des délires de fin de l'humanité, etc. Donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est une comédie romantique.
C'est
et
ça.
Il n'y a pas... On n'a pas un robot ou une intelligence artificielle qui essaye de nous tuer.
Non, mais ça pose la question de la propriété intellectuelle, en revanche.
Oui, et effectivement, ça pose un certain nombre de questions intéressantes sur jusqu'où faut-il aller. Et donc, ça pose les questions éthiques qui sont au cœur des discussions.
Non, mais une œuvre créée par un ordinateur, à qui appartient cette œuvre?
Bah, je dirais que ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, on peut augmenter la créativité avec l'intelligence artificielle, mais ce que ça n'a pas, c'est d'intention artistique.
D'accord.
Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, mais ça ne concerne que moi, cet avis, ça restera toujours l'auteur humain. Et l'intelligence artificielle va apporter des outils de créativité, mais l'intention, ça va rester l'artiste.
Et est-ce que la réaction d'un ordinateur ne peut pas dire finalement j'ai concentré des millions de tubes pour faire danser par exemple les gens l'été, je sais que le tempo qui va faire danser les gens c'est tel BPM, donc il faut être forcément à 132 sinon ça sera pas un succès, il faut que les accords soient des accords majeurs et pas des accords mineurs,
c'est la recette,
il faut qu'il y ait tel intro, tel machin, et de le fabriquer par algorithme quoi, juste simplement en concentrant finalement le meilleur de tout. C'est pas dit que ça marche, mais est-ce qu'un ordinateur est capable de faire ça?
Mais on aura une musique statistique,
c'est ça, oui,
aseptisée.
Exact.
Il y aura pas d'intention, il y aura pas de profondeur artistique, mais il y aura pas de message qui sera porté à la musique. Donc en fait aujourd'hui si on fait ça, on aurait des musiques qui pendant les quelques premières minutes, quelques premières secondes sont intéressantes, mais très vite elles deviennent ennuyantes parce qu'il y a pas cette intention artistique.
Est-ce que la France en intelligence artificielle est en retard?
Non, pas du tout.
Pardon, je ne veux pas vous faire.
En tout cas, d'un point de vue, certainement pas.
Va chez Darty, Nagui.
Certainement pas. Non, la France est un des pays, je pense, où l'intelligence artificielle, qui a donné, avec en particulier son école relativement connue en mathématiques, a donné des profils que tout le monde nous envie. Dans toutes les grandes équipes internationales, il y a des Français aujourd'hui. Hein. Yann Lequin, français, il est à la tête de la recherche de l'intelligence artificielle de Facebook. Donc on est tout à fait dans la cour des grands.
Oui, il va servir une cause qui on sait n'est pas la plus noble possible avec tout ce que fait Facebook, notamment sur la propriété artistique. Dès l'instant, il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, où une photo ou un son ou un document est posté sur Facebook, Facebook est propriétaire de ce son et de ce document.
Ou en tout cas copropriétaire.
Non, il est propriétaire. Si vous voulez exploiter, il y a déjà des artistes qui ont posté sur Facebook des photos ou des dessins pour avoir des espèces de mini sondages auprès de ceux qui les de leurs followers en disant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je vais plutôt ci ou plutôt ça. Et Facebook a dit propriété. Nous sommes propriétaires, donc les droits sont pour nous.
Ça reste un problème.
Et ils ont gagné.
C'est clair qu'il faut que la législation évolue pour que on garde la propriété.
L'autre problème est le droit au silence et au deuil pour des personnes qui malheureusement sont décédées après avoir laissé beaucoup d'informations sur Facebook et où ces informations vont être rappelées régulièrement, y compris à des personnes de leur entourage qui vont recevoir un message de Facebook en disant ça fait longtemps que vous n'avez plus de nouvelles de un tel, demandez-lui de revenir sur Facebook.
Alors ça a évolué, hein, puisque aujourd'hui, en particulier sur ces plateformes, on peut revoir et enlever ces données. Alors jusqu'où, quelle profondeur finalement on peut faire disparaître ces données, ça c'est une autre histoire. Je pense que c'est un sujet qui évolue.
Très bien. Quel serait le meilleur que l'on puisse attendre de l'intelligence artificielle? Puisque là, on ne voit que le mauvais côté, on est espionné, on est suivi, on est tagué. Quel serait le meilleur? Est-ce que c'est en recherche médicale, par exemple? Est-ce que c'est pour la santé? Est-ce que c'est pour
l'emploi? Je pense que c'est dans tous les secteurs. Où ça va augmenter nos capacités. Donc c'est ça qu'il faut voir. J'ai l'habitude de dire, l'intelligence artificielle, c'est comme la force dans Star Wars. Il y a un côté lumineux et il y a un côté obscur. Et en fait, il faut essayer de choisir ce qui va améliorer notre monde. Et c'est pas facile, parce que...
Pour l'instant, c'est quoi? C'est un gain de temps. On parlait des frigos connectés qui recommandent éventuellement ce qui manque. Donc ça décharge ceux ou celles qui sont responsables de ça dans le foyer. Ça se marque comment aujourd'hui, ce gain pour nous?
Le gain, encore une fois, ça va nous augmenter nos capacités dans l'application où elle est utilisée. Maintenant, il faut effectivement, comme je le disais tout à l'heure, être relativement prudent quant à l'utilisation. En fait, les usages, c'est la manière dont on va les utiliser, vont influencer très fortement le développement.
Et c'est valable pour tout, pour l'invention de la voiture, de l'avion, du train,
donc,
des armes.
Et donc, c'est dans notre usage quotidien, et ce qu'on va en faire, qui va transformer finalement...
Est-ce que deux robots peuvent se parler?
Il y a des expériences très célèbres, hein, déjà dans les années 70, où deux chatbots, justement, discutaient l'un avec l'autre. Alors aujourd'hui, ça donne encore des trucs un peu ridicules. Hein. Alors ils ont le mérite de nous faire rire, mais pourquoi? Parce que, encore une fois, au-delà, ils sont capables de répondre. En fait, l'intelligence artificielle, plus c'est spécialisé, plus c'est performant. Plus on va aller vers le sens commun et les choses qui, pour nous, paraissent naturelles, plus c'est compliqué. Et donc deux chatbots qui discutent ou deux robots qui discutent l'un avec l'autre, très vite c'est ennuyeux, c'est rigolo par certains aspects, mais ça n'a pas d'intérêt.
En tout cas, c'était très intéressant de vous écouter. Merci Jean-Claude Audin d'être venu à ce micro. Je rappelle, professeur et chercheur en intelligence artificielle, et le dernier livre, donc L'art des chatbots, concevoir et développer une intelligence artificielle conversationnelle, c'est paru aux éditions Science e-book l'année dernière, en 2018. Voilà. Merci beaucoup. Voici Tanguy Pastureau. ringard, Tanguy.
Oui, oui, mais je l'assume, Nagui. J'ai 45 piges, les amanches. J'ai mal au dos, j'ai le corps qui s'affaisse. De toute ma vie, je n'aurais jamais vu mes abdos. J'ai pas envie de faire semblant d'aimer Aya Nakamura juste pour faire jeune, alors que je rêve de me taper Yvette Horner. Ce qui pose d'autant plus problème qu'elle est décédée il y a un an. Bon, après, ça peut s'arranger, un petit billet, un gardien de cimetière un peu véreux, et le tombeau, ça se transforme en Tinder. Oui, je suis un yeuve. Quand je croise Tom Villa, je vois bien qu'il me regarde comme moi quand je regarde Laura Adler, en se disant, il est bien sympa, mais il a écouté Kurt Cobain de son vivant. Alors forcément, j'entre dans cette période de ma vie où par nostalgie, on pense que tout était mieux avant. Même cette chronique, hein, j'en préfère le début plutôt que ce que je suis en train de dire là. Enfin, je suis content de travailler avec vous, Nagui. Mais quand j'étais jeune et que je gobais des champis en vous matant à la télé en veste de toutes les couleurs, j'étais une sorte de drapeau LGBT à vous seul. Ce qui fait que j'ai pu arrêter de gober des champis, l'effet visuel était le même. Mais ça me plaisait encore plus. Tout est plus chouette quand on est jeune, comme vous le dira tout le monde, sauf Natacha Campouche. Quel ne fut donc pas mon enthousiasme quand avant-hier j'ai appris que France 2 allait relancer Jeux sans frontières, le jeu que déteste Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'était de la télé. Pas comme ces émissions de petits chanteurs à testicules trop hautes qui glapissent du classique pour attirer l'attention. Jeux sans frontières, j'avais 15 ans, avec Georges Belair et Daniel Alombroso. Duo le plus glamour du 20e siècle. Devant Delon et Romy Schneider, parce que dans leur piscine, avait un candidat roumain en train d'essayer de monter sur une plateforme en mousse. Ils avaient fait un effort sur la dramaturgie. Alors le concept, c'est comme Interville mais sans vachette. Ça a été le premier jeu télé vegan. Ouais. Des gens de toute l'Europe s'affrontent, en général déguisés en poules ou en tranches de salami. C'est comme si on montrait ce qui se passe dans la tête d'Ariel Dombal. Mais moi, c'est ce qui m'a poussé en 92 à voter oui au traité de Maastricht. Hein, Philippe Séguin qui défendait le nom et parlait souveraineté du peuple français, j'avais envie de lui dire, flippe pas bébé, l'Europe c'est avant tout des Allemands qui font les cons sur une planche à savon. Hein, il y a 70 ans, ils étaient à fond dans le nazisme. Pardon, mais ça rassurait un peu de les voir comme ça, détendus. Hein. Alors je crois que le retour de Jeux sans frontières, vous êtes impliqué, Nagui. Ouais. Donc j'ai une chose à vous dire. Ouais. Taratata backstage, je m'en fous. Sting à la gratte sèche, c'est ok, mais moi les rockers, je les aime avec le tour des yeux peints en noir, des crucifix entre les tétons, et s'ils sont en train de manger une chauve-souris vivante, c'est mieux. Mais Jeux sans frontières, invitez-moi. Même sans dire qui je suis, j'apprendrai le portugais s'il le faut, et j'arrêterai de m'épiler à la cire de loutre pour passer pour un candidat du Sud. Mais ce jeu me rappelle tellement les jours heureux quand sur la plage bretonne, je regardais mourir les mouettes mazoutées. Une super époque, la crise, le sida, Nicolas Ceausescu, les compilations, la plus grande discothèque du monde. Ah ouais. Oui, non, okay. En fait, c'était affreux.
Bon, c'est promis, je le ferai. Mais il y a aussi une autre émission qui revient à la télé, mais cette fois sur TF1.
Oui, et celle-ci s'adresse à tous ceux qui ne veulent plus réfléchir, hein, qui veulent faire à l'intérieur de leur tête ce que Meg Ryan a fait à l'extérieur de la sienne. C'est Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Comme en 2006, alors vous connaissez le concept,
ouais. Hein,
on envoie des stars dans la jungle, on leur dit vas-y, marche sur la branche à ta gauche. En fait, c'est un anaconda. Elle meurt face cam avec de la bave. Hein. Ça ressemble à la fin du biopic sur Abdelaziz Bouteflika. Alors que la vie des stars est déjà un enfer. Hein. On doit se maquiller, être nickel. Enfin, sauf Charlotte Gainsbourg, hein, qui vient en promo telle qu'elle. Hein, la dernière fois qu'on l'a eu, je lui ai arraché sa chemise, pensant que c'était le doudou de mon neveu qu'elle avait volé. Donc, ça sentait pareil le vomi. Hein.
Donc là,
on se dit, bon, ils ont sûrement bossé le casting, quoi. Ils ont aligné de la grosse star. Hein. Benoît Hamon, Black M, Alain Soral. Résultat, j'en connais deux. Brahim Asloum et Frédéric Bousquet. Et pourtant, le sport, je m'en tape comme Manuel Valls de sa première tôle électorale. Sont en effet annoncés comme célébrités. Hein. Capucine Annave, ex-candidate de Secret Story en 2012, et c'est tout. Hein. Son CV, c'est une page blanche. Et ça, c'est bon pour la planète, parce qu'il est réutilisable. On a Sloan, alors ex-membre du duo Peter et Sloan, qui a chanté « Besoin de rien, envie de toi », pire chanson depuis la création du chant. Le deuxième jour, un cacatoès va venir pondre ses œufs dans son brushing, ça va être formidable. Il y a un influenceur, alors je sais même pas ce que c'est, hein, pour vous dire à quel point je suis has-been. À la sortie du studio, on va me foutre dans la poubelle jaune et me recycler en même temps que mes chroniques. On a aussi une ancienne Kids United qui a 19 ans et a donc été virée du groupe, hein, parce que ces gens-là ont la même longévité qu'un lévrier qui fait des courses de Klebs. Il y a Gérard Vives, hein, qui à 20 ans faisait des séries AB, qu'on appelait comme ça parce que pour les dialogues, il n'utilisait que deux lettres. Hein, et la grosse star du truc, la grosse star, hein, c'est Julien Lepers, le mec qui a 70 piges et la patate de Kylian Mbappé. Hein, chaque soir, on le branche entre deux trottinettes, il tourne sur lui-même en hurlant. Il n'a jamais avalé sa langue, on ne sait pas comment. Alors lui est tellement usant qu'un quart d'heure après son arrivée, l'ensemble des prédateurs de la jungle, bien sûr, se sera taillé, hein, et le lieu sera moins punk qu'un salon de thé fréquenté par Christine Lagarde. Bref, il ne fallait pas relancer ce jeu, Nagui, puisque le passé est toujours mieux, toujours, sauf parfois.
Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Nous parlons avec Doria Tillier, William Lebguil de ce film Yves. Vous saviez, Doria, William, que vous avez un point commun avec Tanguy Passureau?
Ah non.
Ah, la drogue.
Alors.
Les Kleenex.
Ah, mais ça y est, tu le dis.
La bipolarité.
Non, il faut le dire. Benoît Forgeard.
Oui.
Parce que tu as joué dans le premier court-métrage de Benoît Forgeard.
Dans Colossia.
Non, quand même pas.
Mais non, je sais,
dans La course nue.
Ah oui.
La course nue.
Et
donc tu. Courait nu.
C'était le non, c'était pas moi.
Voilà,
c'était une jeune femme. Voilà.
Anne Stephens.
Anne Stephens, voilà, ouais, exactement. C'était le début de ma carrière.
William Lebguil, dès qu'il y a une fille nue dans le film, vous repérez tout de suite qui
c'est. En fait, on ne la voit pas plus. Il y avait un très petit budget, donc voilà, on ne voit pas les
quel rapport entre le budget et filmer une femme nue.
Effectivement, il y avait.
Je ne vois pas le rapport.
Non, ça coûte moins cher, c'est vrai.
Mais alors, qu'est-ce que tu as retenu ou gardé en mémoire de Benoît? Parce que vous étiez à Rouen, c'est ça?
Ouais, lui était à l'école des Beaux-Arts de Rouen, et puis moi j'étais, j'étais à Rouen, et donc on s'est rencontrés comme ça dans les rues un soir. Ouais, c'était un ami en fait, voilà. J'en ai retenu pas grand-chose, à part le fait que j'étais clairement pas fait pour ça, qu'il fallait donc que je m'oriente vers une autre activité peut-être.
Et lui, son cinéma, sa créativité.
Oui, c'est formidable parce qu'il était complètement fou, donc c'est chouette de se retrouver face à des univers pareil. Moi, j'étais pas habitué, donc j'étais moi qui suis un peu coincé, un peu rigide comme ça. Il m'a bien déniaisé quoi.
Et donc il a toujours des messages. Est-ce qu'il veut toujours faire passer des messages dans ses films? Moi, je n'ai vu que Yves, j'ai pas vu les autres courts-métrages, mais est-ce que c'est
des messages sur l'absurdité, l'absurdité de l'existence, je pense, ouais, mais. Peut-être pas plus, j'en sais rien.
Okay. Ouais. Non, mais alors justement, qu'est-ce qui vous a raconté à vous, Doria et William, quand vous avez fait des lectures ou des rendez-vous? J'ai bien compris qu'il vous a présenté ça en parlant du vécu de cette fameuse conférence qu'il avait interpellé. Mais il a simplement dit voilà, on va faire un film, ça va être une comédie romantique, il y aura de l'émotion, de l'amour et aussi de l'humour. Ou il y a quand même quelque chose à lire.
Pour ma part, hein, j'ai pas souvenir qu'il ait développé beaucoup. Hein. Il a même pas dit non que c'était été né pendant une conférence l'idée. Ça, d'accord. Je l'ai su en interview. Mais moi, la seule chose dont je me souvienne, c'est je crois qu'il avait peur, alors qu'on l'aurait pas fait, je crois, mais il avait peur que on joue au second degré. Il disait non, mais faut vraiment, faut pas jouer comme si c'était une blague. Hein. Il faudra vraiment jouer.
Être sincère.
Comme si c'était sérieux. mais c'est tout, hein. Non, je crois qu'il nous a laissé apprécier le scénario à notre.
Et quelle a été la difficulté pour vous? Alors, William, vous avez plus souvent affaire que Doria au frigo, à Yves. Est-ce que c'était d'être face à un frigo, d'avoir des répliques et d'être émouvant? Parce que moi, je vraiment tous les deux, je vous ai trouvé parfait, juste et touchant, émouvant et drôle. Il y a des vrais moments de jeu aussi. Et c'est facile face à un objet.
Bah ouais, c'est facile, je sais pas, mais en tout cas, c'est hyper excitant quoi. Comme c'est un challenge quand même d'acteur qui est c'est oui, génial quand on lit le scénario.
On entend souvent les acteurs ou les actrices ici dire que le travail se fait dans l'écoute, que le travail se fait quand justement le partenaire est là, et même s'il est hors champ, c'est pas un bout de gaffeur avec lequel on parle, mais il est là, il exprime même hors caméra des larmes ou des émotions. Là,
ça dépend. Hein, parfois c'est vraiment le scotch. Hein.
Oui.
Mais je sais pas, c'est comme par exemple moi ce qui me fascine c'est par exemple des films tout fait sur fond vert. Par exemple, on peut imaginer un acteur qui est avec un sabre et une tunique en train de faire semblant de se battre avec un dragon. C'est ça qui est hyper marrant en fait dans ce métier là c'est de
jouer,
c'est de jouer en fait. Et de jouer avec un frigo, c'est hyper excitant.
C'est comme Scarlett Johansson, enfin pour Her, ce film là finalement elle est jamais face à lui, c'est simplement avec une voix, une sorte d'imagination. C'est ça convoque aussi autre chose, j'imagine, quand on est comédien, de se projeter ailleurs, je sais pas.
Pas complètement. Non, mais en plus quand tu joues face à un scotch, ça peut être compliqué parce que tu joues un personnage qui joue face à quelqu'un, donc c'est ça qui est compliqué. Or là, on joue des personnages qui jouent face à un frigo, et le frigo était en face de nous et la voix sortait du frigo comme dans le film, quoi. Donc
ça a aidé à être naturel.
Ouais, complètement. Et puis en plus, moi je trouvais que parfois même c'était plus libérateur de pas jouer avec un être humain. Il y avait quelque chose, il y a pas de regard posé sur soi en face.
Des ombres de perche, au pire, mais c'est bien.
Le film sort la semaine prochaine. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau, de nous avoir confié.
Du coup, je reste pour Daniel Morin.
C'est secret de jeunesse.
Un bout de ta vie.
Bah oui. Bah c'était ma première interview. Merci, Nagui. Je suis dans une autre dimension, là.
Les tout rouges.
Non, oui, mais c'est... Les France Inter.
C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tout... Est-ce que vous avez entendu sur notre spécialiste, Jean-Claude Heudin, Doria, vous êtes troublé à un moment, enfin, vous étiez inquiète d'être espionnée par les téléphones, par les appareils ou les ordinateurs. Non, mais d'avoir un micro branché qui écoute.
Non, à vrai dire, moi, ça m'inquiète pas trop parce que je pense pas qu'il y ait quelqu'un vraiment qui regarde. C'est-à-dire, c'est des informations enregistrées comme ça. Donc, voilà. Et puis, en plus, j'ai rien de gravissime à cacher. Donc, moi, perso, enfin, ça m'inquiète pas à titre personnel.
C'est l'intimité, William. Pardon.
Non, mais Doria, non, mais j'ai bien vu que tu voulais me couper.
Non, non, au contraire.
Non, j'ai rien à ajouter. Merci.
C'est l'intimité, quoi.
Mais l'intimité, oui, mais ces personnes la regardent. C'est pas comme si on allait te filmer et exposer ça à Times Square, quoi.
Qu'est-ce qu'on sait?
Bah, qu'est-ce qu'on sait? Enfin, en tout cas, je vois pas pourquoi on le ferait. Donc,
William, ouais. Vous êtes pas plus inquiet que ça des manipulations des informaticiens?
Non, ça va. Si, c'est un peu. Enfin, je sais que j'ai enlevé quand même la fonction reconnaissance faciale de mon téléphone parce que je trouvais ça assez angoissant quand même.
D'accord. Voilà. Ouais.
Pourquoi parce que
je sais pas. Je me dis. Enfin, je le passe devant et puis tout est. Enfin, ça me voit tout le temps. Enfin, je trouvais ça assez.
Mais ça va être de plus en plus comme ça. Étrange, c'est-à-dire que même on n'aura plus de clés pour rentrer à la maison. Ça sera des interphones avec reconnaissance faciale pour pouvoir rentrer chez soi.
Ouais, certainement. Ouais. Ben ça je trouve ça un peu.
On sera jamais bloqué dehors.
Ouais, c'est le nouvel. C'est les jumeaux qui vont se régaler surtout. C'est chaque jumeau pourra rentrer chez l'autre sans avoir la clé. Enfin bon, imagine. En tout cas, Daniel Morin, on le voit avec
Yves.
Dans l'affaire du micro caché, que les objets connectés, l'intelligence artificielle, si ce n'est pas encadré, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça peut devenir un véritable danger. L'homme n'est plus vraiment maître de la machine, et puis on peut devenir même carrément esclave de cette machine. C'est le concept de l'évolution de l'espèce qui est remis en cause.
Leïla, nom de Dieu, ouais. Va chercher Adolphe, ton robot tueur de nains. Ça va saigner. Ce gars-là à ma gauche, là, le petit gars, ça peut pas être le vrai de Nagui, l'ancien animateur de 30 millions de nazis qui sort autant de conneries.
Ça va
être le robot doublure de Mathieu Delormeau ou de Pascal Pro pour être aussi débile. Leïla, renifle-le, fais le sniff test. Non, arrête, malheureuse, tu mérites pas ça. Non, non. Merde, il me regarde. Ah, j'ai bien peur que ce soit le vrai. Je sens le vice dans ses petits yeux noirs de rongeur syphilitique. J'en peux plus de lui. Sa niaiserie me chahute l'œsophage. Oh, et l'évolution de l'espèce. Ni, ni, ni. Qu'on n'est plus maître de la machine. Nanana. Qu'on devient esclave. Nu, nu, nu. Et alors? Et alors? Alors? A2L-A-U-R-E-H. Hein? C'est ça qui est bon! Et ne me dites pas, petit pervers de Levallois-Perret, ne me dites pas que vous n'usez pas de ce stratagème. C'est même Madame Guy qui se trouve être votre femme,
oui.
En même temps qu'elle est ma maîtresse. C'est donc Madame Guy qui est très étonnée d'avoir trouvé un magnétophone Grundig à cassette caché dans son sèche-cheveux. Absolument. Mais reconnaissez-le, mon petit bonhomme. Espionner, c'est chouette. Que ce soit ses employés, ses concurrents, ses enfants, ses invités, son public. Et le côté assistana, il est où le bonheur, hein? Il est où? Eh bien, il est là, dans l'assistana, justement, le rien foutisme, le rien branlage. Besoin de faire ma toilette, mais en même temps grosse soif, hop, mon robot apéro qui me sert une pinte, tout en me lustrant le fondement à la peau de chamois.
Oh.
Une engueulade avec Moumoune, ma compagne, et hop, mon robot, faux d'air chaud, va lui acheter des fleurs et un gigolo pour qu'elle ait enfin un peu de plaisir. Et puis merde, ouvrez les yeux, monsieur Guy. Rien qu'en jetant un coup d'œil circulaire autour de cette table. Vous vous rendez très bien compte que pour certains, comme Marina, spirituellement limitée, ou encore Tom, cérébralement sinistré, un petit coup de main, même artificiel au niveau de l'intelligence... Ce serait pas du luxe. Désolé, mais une fois encore, mon bon monsieur Guy Torikiki, vous avez dit
n'importe quoi.
C'est bien ça.
La bande originale avec Nagui.
Est-ce que ça est disponible sur les plateformes et tout ou pas?
Bien sûr.
Oui, tout à fait, ça sort demain, je crois bien.
Okay. Il y a la BO, il y a le CD, absolument, absolument. Le film, c'est le 26, hein, c'est mercredi prochain que ce film sortira. D'autres projets, le 6 novembre, Doria, vous êtes à l'affiche de La Belle Époque de Nicolas Bedos.
On a hâte de le voir.
Ah ouais, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Guillaume Canet, Fanny Ardant. Je sais pas si vous l'avez imité sur le tournage, Fanny, ou pas?
Non, j'ai cessé de le faire à la minute où je l'ai rencontré. J'ai aperçu que je le faisais mal.
Les chocottes.
La présentation à Cannes s'est bien passée, vous l'avez bien vécu?
Ah ouais, c'était exceptionnel, c'était fou. Genre, vous allez me faire pleurer là, si vous me faites parler.
Mais pourquoi ?
Ah, parce que c'était très émouvant. Non, je vais pas pleurer vraiment, c'était une façon
non,
de...
Non, mais j'entends, mais c'était émouvant de le vivre à Cannes.
Ah ouais, c'est très émouvant parce que tu présentes ton film devant, dans une salle magnifique, il y a, je sais pas, 3000 personnes, et puis c'est des gens du cinéma, il y a quelque chose de... Oui, puis ils se mettent tous debout, ils applaudissent.
Bah, ouais, c'était un vrai gamins, succès, ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Le 2 octobre, William Lebguil, vous êtes à l'affiche de Debout sur la montagne de Sébastien Bête-Bédé.
Oui, parfaitement.
Avec Izzy Aïgien, dont nous parlions tout à l'heure, Bastien Bouillon, et c'est quoi, trois amis d'enfance, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est trois amis d'enfance qui se retrouvent dans leur village d'enfance et qui sont à la recherche de leurs illusions perdues.
Très bien. En attendant, en tout cas, Yves, c'est au cinéma, c'est un film que nous vous encourageons à voir parce que voilà, il est drôle, il est touchant, il est émouvant, et histoire d'amour et surtout extrêmement bien interprété par toute la bande. Je rajouterai Philippe Catherine évidemment à vous, Catherine. Mais je vous lis dans le blanc des yeux. Bravo Doria, merci. Bravo William, merci. Ça fait plaisir. Des excuses à présenter, Daniel?
Oui, bien sûr, quelques-unes. Désolé pour les pilotes de chasse qui nous écoutent et qui ont découvert que le fringant, le dynamique, le séduisant William Lebguil ne rêvait pas de leur métier. En même temps, je pense que le monde est plus sûr comme ça. Désolé pour Dora Tillier, dont on a pu découvrir la naïveté touchante. Hein, se faire soigner par Michel Simès. Rien que la phrase me fait marrer, mais me désole à la fois. Désolé pour le monsieur ou la dame qui était en charge de la bande-annonce du film. Et on a cru comprendre que Nagui avait mis quelques doutes sur son travail. Alors comment vous dire, j'en ai reparlé avec Nagui à la pause. Ouais. Il vous souhaite le chômage,
non,
la mort,
non, non,
à
non,
nouveau
non,
le chômage.
Non.
Et encore, je le trouve calme et indulgent.
Non, pas du tout. Je l'embrasse, je m'excuse. C'était épidermique comme réaction. Demain, c'est Luz qui sera notre invité pour parler de sa bande dessinée, notamment Hollywood Menteur et aussi Indélébile. Encore merci, Doria, bonne journée, portez-vous
merci.
Bien. Merci, William. Bonne journée, c'est Philippe Bertrand pour la campagne. Bonne émission, Philippe.
Merci, Nagui, à demain.